Chapitre 10. La vie des autres. Notre grand tourment dans l'existence vient de ce que nous sommes éternellement seuls. Et tous nos efforts, tous nos actes, ne tendent qu'à fuir cette solitude. Guy de Maupassant. Paris, lundi 19 décembre, 4h30 du matin. Une neige fine et serrée tombait depuis quelques minutes sur le 8e arrondissement. Figé par le froid de la nuit, le quartier du Faubourg du Roule était désert. Un Peugeot Partner blanc mit son clignotant avant de s'arrêter en double file au milieu de la rue de Berry. Emmitouflé dans une parka à grosse capuche, une silhouette féminine sortit d'un immeuble bourgeois et s'engouffra dans la camionnette.
« Pousse le chauffage, ça caille !»
se plaignit Madeleine en bouclant sa ceinture.
« Il est déjà à fond !»
répondit Takumi en démarrant.
« Vous avez passé un bon dimanche ?»
La jeune femme éluda la question et enfila ses mitaines en laine le temps que l'habitacle se réchauffe. Takumi n'insista pas. La voiture descendit la rue d'Artois et tourna à droite pour rejoindre la rue La Boétie, puis les Champs-Élysées. Madeleine desserra son écharpe, extirpa un paquet de cigarettes de sa poche et en alluma une.
« Je croyais que vous aviez arrêté. »«
Ça va, tu vas pas t'y mettre toi aussi. »«
Tu sais ce que disait Gainsbourg. » « Je bois et je fume. L'alcool conserve les fruits et la fumée les viandes. »
Takumi resta songeur quelques secondes avant de remarquer.
Premièrement, il avait piqué cette citation à Hemingway. Et deuxièmement, ils sont morts tous les deux, non ? Très bien. Si ça te gêne, va travailler ailleurs ou fais-moi un procès pour tabagisme passif.
« Je disais ça pour votre bien, » répliqua calmement Takumi.
« Écoute, lâche-moi les baskets, tu veux ?»«
Et vire-moi cette daube !» ordonna-t-elle en désignant l'autoradio d'où s'échappait une version nippone de « Que je t'aime » interprétée par Johnny lui-même.
L'Asiatique éjecta son CD et Madeleine fit défiler les fréquences de radio jusqu'à trouver une station classique qui diffusait la suite Bergamasque. La musique l'apaisa un peu. Elle se tourna vers la fenêtre et regarda la neige qui commençait à tenir sur les trottoirs. Au rond-point de la porte Dauphine, Takumi prit la bretelle pour rejoindre le périph. Madeleine s'était levée du pied gauche, comme cela lui arrivait parfois, mais son humeur maussade ne durait jamais très longtemps.
Il écrasa un bâillement discret.
Ses sorties nocturnes à Rungis l'enchantaient. Dommage qu'il faille se lever aux aurores. D'ailleurs, tous les fleuristes ne se donnaient plus cette peine. Une bonne partie de leurs collègues se contentaient désormais de faire livrer leurs fleurs directement dans leur magasin après avoir passé commande sur Internet.
Madeleine l'avait convaincu que ce n'était pas la bonne façon d'exercer son métier et que la première qualité d'un vrai fleuriste résidait justement dans la quête du produit parfait. À cause de la neige, la route était un peu glissante, mais ça ne gâchait pas à Takumi son plaisir de conduire la nuit dans Paris.
La fluidité de la circulation avait quelque chose de grisant et d'irréel. Il continua sur la 6 comme pour se rendre à Orly, et arriva bientôt devant le péage du plus grand marché de produits frais du monde.
Rungis fascinait Takumi. Le ventre de Paris fournissait la moitié des poissons, des fruits et des légumes consommés dans la capitale. C'était là que s'approvisionnaient les meilleurs restaurateurs et les artisans les plus exigeants. Au printemps précédent, lorsque les parents du jeune Japonais étaient venus en France, c'était la première visite qu'ils leur avaient organisée, avant même la Tour Eiffel. L'endroit était impressionnant. Une véritable ville, traversée de milliers de personnes avec son propre commissariat, sa gare, ses pompiers, ses banques, son coiffeur, sa pharmacie et ses 20 restaurants. Il aimait cette effervescence. Entre 4 et 5 heures du matin, lorsque l'activité battait son plein au milieu du balai des camions que l'on charge et que l'on décharge dans un univers d'odeurs et de saveurs. Au péage, Madeleine tendit sa carte d'acheteur pour pénétrer dans l'enceinte et la camionnette se gara entre l'avenue des Maraîchers et celle de la Villette sur l'un des parkings couverts du secteur dédié à l'horticulture. Ils choisirent un haut chariot à roulettes et pénétrèrent dans l'immense serre de verre et d'acier. Les 22 000 mètres carrés du pavillon C1 étaient entièrement consacrés aux fleurs coupées. Les portes automatiques passées, on se retrouvait plongé dans un autre monde. et la grisaille du dehors laissait la place à une symphonie de couleurs et de senteurs. Requinquée par le spectacle, Madeleine se frotta les yeux, s'éveilla pour de bon et arpenta le hall d'un pas décidé. Sur une surface équivalente à plus de 3 terrains de football, une cinquantaine de grossistes se côtoyaient dans cet immense hangar dont les passages portaient un nom de fleurs. Allée des mimosas, des iris, des anémones.
« Salut ma jolie !»
l'accueillit Émile, le responsable du stand sur lequel elle achetait une bonne partie de sa production. Avec son chapeau de paille, son sécateur, sa salopette et ses moustaches en guidon de vélo, Émile Fauchelevent était une institution. Présent à Rungis depuis l'ouverture du marché en 1969, il en connaissait tous les codes et les rouages.
« Je te prépare un cours sans sucre !»
dit-il en insérant quelques pièces dans la machine à café. Madeleine le remercia d'un geste de la tête.
« Et un thé pour Katsushi ?»
ajouta-t-il en défiant du regard le protégé de la fleuriste.
« Je m'appelle Takumi !»
répondit froidement l'Asiatique.
« Et je prendrai plutôt un cappuccino !»
Émile ne se dégonfla pas.
Et un cappuccino pour Tsashimi, un.
Le jeune homme attrapa son gobelet sans rien dire et baissa la tête, déçu de ne pas être respecté par le grossiste.
Un jour, il faudra que tu te décides à lui mettre ton poing dans la gueule,
lui glissa Madeleine, tandis qu'Émile se dirigeait vers un nouvel arrivant.
Ça, je ne peux pas le faire pour toi.
Mais c'est un vieil homme.
« Il te dépasse de 3 têtes et pèse 2 fois ton poids. »«
Si ça peut te rassurer, mon bizutage a duré 6 mois. »« Chaque fois qu'il me voyait, il m'appelait la rosbif ou l'anglish. » »«
Et ça s'est arrêté comment ?»«
Lorsque je lui ai balancé son café bouillant à la gueule. »«
Depuis, il me traite comme une princesse. »
Takumi se sentait désemparé. Dans le pays où il était né, on cherchait à tout prix à éviter le conflit, l'affrontement ou les attitudes agressives.
« Mais... » Pourquoi ça se passe comme ça ici ?
Ça se passe partout comme ça, dit-elle en écrasant son gobelet avant de le jeter dans une corbeille. Et si tu veux mon avis, tu as besoin de te confronter à ce genre de situation pour devenir un homme.
Mais je suis un homme, Madeleine.
Oui, mais pas celui que tu voudrais être. Elle le laissa sur cette réflexion pour retrouver Bérangère, l'une des vendeuses de Fauchelevent avec qui elle parcourut les différents stands. Elle acheta 2 ballots de feuillage, négocia âprement le prix des tulipes, des pâquerettes et des camélias, mais céda sur 3 bottes magnifiques de roses d'Équateur. Elle était à l'aise dans le marchandage, tenant à payer les fleurs à leur vraie valeur. Takumi s'occupa de charger cette première cargaison et rejoignit sa patronne dans l'enceinte réservée aux plantes. D'un œil expert, Madeleine choisit des bégonias et des myosotis en pot, tandis que son apprenti, fête de fin d'année oblige, s'emparait des stars de Noël, que sont le hou, le gui, les poinsettias et les hélébores. Elle lui laissa aussi les plantes dépolluantes, qui connaissaient un succès croissant auprès des entreprises, mais qu'elle-même jugeait ennuyeuses à mourir, pour mieux prendre le temps de choisir les orchidées blanches et pastels sur lesquelles elle avait bâti la réputation de son magasin. Elle fit ensuite un rapide détour par la serre où étaient entreposés les gadgets qui permettaient à ses clients d'offrir des cadeaux amusants et peu onéreux. Bougies parfumées, plantes carnivores, petits cactus en forme de cœur, feuilles de café plantées dans des tasses à expresso. Au rayon des décorations, elle craqua sur un ange en fer forgé qui faisait fureur dans sa vitrine. Takumi la suivait et buvait chacune de ses paroles. Malgré sa frêle silhouette, il mettait un point d'honneur à assumer les tâches pénibles, poussant un chariot qui devenait plus lourd à chaque halte, soulevant d'un bras un sac de terreau de 10 kilos ou un énorme cache-pot en terre cuite. Le vent faisait trembler les serres. À travers les vitres, on distinguait des flocons lumineux qui voltigeaient dans le ciel avant de recouvrir le bitume de leur écume blanche et glacée. Pour retarder l'instant de braver la froidure, Madeleine s'attarda dans ce cocon rassurant. L'achat de bulbes du printemps, jacinthe, jonquille, personnage, la tira de sa mélancolie. Pour elle, qui détestait la période des fêtes, le début de l'hiver était le moment le plus triste de l'année. Mais c'était aussi celui où elle avait le plus besoin de voir la vie revenir. Pour elle, c'était la vraie promesse de Noël. 6h30. Takumi referma le coffre avec précaution. La camionnette était pleine à craquer.
« Allez, viens !»
Je te paye un petit déj, proposa Madeleine. Enfin une parole gentille.
Ils poussèrent la porte des Cordeliers, le bistrot installé au centre du secteur horticole. Autour du comptoir, les nombreux clients discutaient le bout de gras, refaisant le monde devant leur ballon de rouge ou leur petit noir. Certains étaient absorbés dans la lecture du Parisien, d'autres remplissaient des grilles de loto ou de PMU. Beaucoup de conversations tournaient autour des prochaines élections présidentielles. Sarko serait-il réélu? La gauche avait-elle choisi le meilleur candidat? Ils s'assirent à une table dans un endroit un peu moins bruyant. Madeleine commanda un double expresso et Takumi se laissa tenter par un kebab très gras.
« Bah t'as l'estomac bien accroché, toi. Tu me fais la morale à propos de la clope, mais tu devrais surveiller ton cholestérol. »«
Je suis ouvert à toutes les cultures », se justifia l'Asiatique en prenant une énorme bouchée de son sandwich.
La jeune femme enleva ses gants et déboutonna sa parka d'où elle sortit le téléphone de Jonathan.
« Vous ne l'avez toujours pas renvoyé ?» constata le Japonais. « Tu es observateur, toi. »
Au fond, ça ne m'étonne pas.
Et ça te pose un problème ? Rétorqua-t-elle sur la défensive.
Non, j'étais certain que l'histoire de l'empereur vous intéresserait.
Elle se radoucit et sembla hésiter avant de lui tendre une feuille de papier qu'elle avait imprimée pendant la nuit.
Toi qui as déjà vécu aux États-Unis, tu as déjà entendu parler de ça ?
Intrigué, Takumi déplia l'article et en lut la manchette. Jonathan l'empereur trahi par son meilleur ami. En quelques jours, le plus célèbre des chefs a perdu sa femme, son restaurant et son meilleur ami. Retour sur une double trahison. People Mag, 3 janvier 2010.
Je ne savais pas que vous lisiez ce genre de presse, dit-il en chaussant ses lunettes.
Épargne-moi tes vannes, tu veux bien ?
Les 4 photos qui illustraient l'article ne laissaient aucun doute à l'interprétation. Elles avaient été prises le 28 décembre 2009 à Nassau, aux Bahamas. On y voyait Francesca en compagnie d'un certain Georges Latulippe. Le couple avait été shooté par un paparazzi dans un petit coin de paradis du nom de Cable Beach. Bien que volés, les clichés avaient un côté esthétique. En tenue de coton clair, l'ancien mannequin marchait main dans la main avec son amant le long d'une plage de sable blanc aux eaux turquoises et scintillantes. Leur attitude trahissait leurs sentiments. Tout en complicité, ils souriaient et flirtaient comme s'ils étaient seuls au monde. Sur la dernière image, les 2 tourtereaux s'embrassaient tendrement à la terrasse d'un café à l'architecture coloniale. Cette série de poses avait un côté glamour et vintage qui rappelait les publicités Calvin Klein des années 90. Généralement plus encline à révéler les incartades masculines, la presse à scandale n'avait pas été tendre envers les frasques de Francesca. Il faut dire que, dans ce monde hypocrite et manichéen, tous les ingrédients étaient réunis pour donner à cette tromperie des airs de tragédie antique. D'un côté, la femme adultère à la beauté fatale qui partait au bout du monde pour tromper son époux avec son meilleur ami. De l'autre, le mari fidèle restait à New York pour s'occuper de son fils et tenter de sauver son restaurant en péril. Last but not least, le rôle de l'amant était tenu avec prestance par ce Georges Latulippe. L'homme était grand, brun, ténébreux, séducteur. Un beau mec qui, malgré son nom ridicule, présentait une ressemblance frappante avec le Richard Gere de la grande époque. Lorsqu'on lisait l'article un peu plus attentivement, on comprenait que Georges Latulippe travaillait comme second de Jonathan à l'Impérator. C'était son plus proche collaborateur, mais aussi son ami. Avant de rencontrer Jonathan, Georges courait en effet les castings tout en vendant des hot-dogs dans l'un de ces chariots ambulants qui pullulent à Manhattan. Jonathan avait une sorte de don pour repérer le potentiel des gens. Il avait formé Georges jusqu'à en faire son adjoint, lui apportant la stabilité, l'aisance matérielle et un CV qui lui donnait la certitude de trouver du travail jusqu'à la fin de ses jours. Et pour le remercier, l'autre lui avait piqué sa femme.
Qu'est-ce que tu en penses ?
« J'en pense que parfois les femmes sont des garces, » répondit Takumi.
« Si ça te fait dire de telles conneries, » grommela Madeleine, « je crois que je vais arrêter de t'emmener dans les bistrots et... »
Mais le jeune Japonais ne la laissa pas finir sa phrase.
« Attendez, ce nom, Georges Latulippe, je l'ai déjà entendu quelque part. On ne lui a pas déjà livré des fleurs par hasard ?»«
Non, je ne crois pas. Avec un nom pareil, je m'en serais souvenu quand même. »
Et puis, ça m'étonnerait qu'il habite à Paris.
mais Takumi s'accrochait à son idée.
« Vous avez votre ordinateur avec vous ?»
Madeline soupira et sortit de son sac le notebook sur lequel elle avait téléchargé sa base client. Takumi posa l'écran devant lui et tapa « La tulipe ». Il ne fallut pas longtemps pour qu'une occurrence s'affiche. « Georges, La tulipe, café Fanfan, 22 bis avenue Victor Hugo, 75116 Paris. »
C'est moi qui lui ai livré un bouquet de dahlia pourpre il y a 8 mois. Une commande que nous a sous-traité votre collègue du 16e, Isidore Brocus. J'ai établi la facture au nom du restaurant, c'est pour ça que son patronyme ne vous disait rien.
Et toi, tu te souviens de lui?
Non, je m'étais contenté de laisser les fleurs à un employé.
Madeline n'en croyait pas ses yeux. Non seulement Georges Latulipe avait repris un restaurant, mais il vivait à Paris. Décidément, le monde était un village.
Bon, allez. « On lève l'ancre, » ordonna-t-elle. « Tu termineras ton kebab dans la voiture, mais gare à toi si je trouve une trace de gras sur mes sièges. On rentre à la boutique ?»«
Toi, tu rentres à la boutique. Moi, je crois que je vais aller rendre une petite visite à Fanfan la Tulipe. »«
Mais sous quel prétexte ?»«
Si tu crois que j'ai besoin d'un prétexte pour adresser la parole à un homme... »